d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la remontée de Paul Saint-Pierre Plamondon avec la collègue journaliste Annabelle Blais, qui a suivi la caravane du Parti québécois dans la première moitié de la campagne. À partir de ce qu'elle a observé, quelles sont les forces et les limites du chef péquiste? Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Spécialiste de la broue dans le toupette ces temps-ci. Dis-moi, François Legault a comme déjà commencé à faire son conseil des ministres?
Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Moi, j'ai été étonné parce que j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans, jusqu'à un certain point, une bonne stratégie pour marquer des points sur ses adversaires. Mais en même temps, là, il s'est exposé à d'autres questions. Puis là, ça devenait une cascade qui devenait de plus en plus dangereuse pour lui. Alors, dans un point de presse que la CAQ avait convoqué là, dans la tournée du chef, il y avait une annonce sur les infrastructures sportives, mais c'est M. Legault lui-même qui a pris la peine, je pense qu'il y avait vraiment là, une volonté de recentrer le débat, de ramener l'attention sur l'économie, et là, il l'a voulu, donc après des journées difficiles sur le troisième lien, sur l'immigration, etc., il a voulu donc insister sur le fait que lui, M. Legault, il avait un dream team en économie pour un peu que l'on s'intéresse à la faiblesse, en tout cas c'est ce qu'il prétend, des autres partis en cette matière-là. Donc ça a amené François Legault à dire que son trio économique va demeurer. Donc là, il a vraiment assuré que Pierre Fitzgibbon va rester ministre de l'économie, Éric Girard va rester ministre des Finances. On s'en doutait quand même pas mal, mais là, il a même aussi ajouté Sonia Lebel au Trésor, et il a aussi dit que Christian Dubé resterait ministre de la Santé. C'est aussi même chose, on s'en doutait un peu, M. Dubé a présenté un plan pour les prochaines années, mais là, ça fait en sorte donc que Sonia Lebel est casée, là, comme on dit en bon québécois, pour le prochain mandat aussi au Trésor. Donc, c'est extrêmement particulier parce que on sait à quel point il y a des candidats vedettes qui ont été recrutés par la CAQ et qui vont vouloir des postes. Et ça va faire donc une partie de bras de fer pour les postes qui restent disponibles. Mais là, on apprend qu'il y en a plusieurs qui sont déjà, qui vont rester occupés par ceux qui étaient sur ces chaises-là.
Ouais. François Legault a toujours été critique de Philippe Couillard. Mais en 2018, on se souviendra que déjà, Philippe Couillard avait annoncé que Gertrude Bourdon serait ministre de la Santé si les libéraux étaient reportés au pouvoir. Puis il avait dit, Gaétan Barrette, là, je ne le mettrai pas à la Santé, il va être au Trésor. C'est ce qu'il réclamait. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais donc, ce n'est pas la première fois, mais ça avait comme été assez dénoncé par François Legault à l'époque comme présomptueux.
Oui, ben c'est ça. J'allais te dire que moi aussi, j'avais ce même souvenir-là qui était quand même une nouveauté. Là, pour nous qui couvrons la politique depuis des années et des années, on n'avait pas vu ce genre de stratégie. Dans ce cas-ci, c'était que M. Couillard voulait montrer aux Québécois que Gaétan Barrette ne serait plus ministre de la Santé.
Oui, fait que tu vois, des fois, c'était l'homme le plus impopulaire du Québec.
C'est ça, ça fait des objectifs différents. Dans ce cas-ci, c'est un peu le contraire. M. Legault veut montrer que son équipe est la plus compétente. En même temps, honnêtement, dans le cas de M. Dubé, oui, on avait parlé d'une candidature vedette, mais tu sais, Pierre Fitzgibbon, là, pour comme un des mortels, c'était pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a dû faire ses preuves aussi, c'est comme n'importe quel
Christian Dubé, oui, il est toujours, il trône au sommet des palmarès de personnalité, en tout cas les derniers, là, moi j'ai écrit là-dessus,
oui.
Puis... tout de suite après François Legault, donc c'est vraiment, comme tu dis, pour attirer le vote des gens, là, parce qu'il est connu et aimé.
Exactement. Et mais là, c'est ce qui est très particulier, c'est que dans le cas de Jean-François Robert, là, les journalistes qui étaient sur place ont bien fait de poser d'autres questions en disant, OK, mais là, ça veut dire que c'est immuable. Dans le cas de M. Robert, est-ce que c'est la même chose? C'est le Dream Team. Puis là, M. Legault a dit non, tu sais, parce que il a dit oui, on a M. Robert, Isabelle Charest. Isabelle Charest était déléguée à l'éducation, le plus responsable des sports. Mais là, il dit, il y en a d'autres qui arrivent. On a l'embarras du choix. Il y en a plein. On a une présidente de syndicat des professeurs. On a un ancien directeur d'école. Donc là, ça, tu sais, ça montrait que il y en a qui sont assurés de rester là où ils étaient. Et d'autre part, M. Legault dit, il y a personne qui a une job garantie à la CAQ. Il venait de faire exactement, il venait de dire exactement le contraire pour ceux qui l'ont décidé de maintenir dans leur fonction. Alors, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment risqué. Autre chose aussi, c'est qu'il a dit que c'était pas impossible qu'il y ait deux ministres sur la rive sud de Québec. Ça sous-entendait comme de dire Bernard Drainville, Martine Biron dans Lévis, ouais, et Chute de la Chaudière serait ministre. Moi, honnêtement, tout juste avant le début de la campagne, au début, là, lorsque ça, on avait confirmé la candidature de Martine Biron, j'avais des informations qui me disaient que c'est pas quelqu'un qui nécessairement qu'il faut penser qu'il va être ministre en arrivant. On semblait comme diminuer les attentes à ce sujet-là. Puis là, cette déclaration-là de M. Legault, j'ai trouvé ça surprenant. Et ça, forcément, ça met des gens dans son équipe à la CAQ un peu sur les dents. Parce que, tu sais, c'est sûr que Joëlle Boutin, par exemple, doit penser qu'elle peut être ministre à Québec. Geneviève Guilbeault va rester ministre. Jonathan Julien, eh bien, il y a Éric Kerr. Il y a, tu sais, bon, alors, ça fait beaucoup, beaucoup de monde pour Québec, je veux dire, Appalaches. Qui sont des ministres sortants ou qui ont des aspirations. Donc, il va y avoir congestion et je trouve que M. Legault fait en sorte d'avoir une drôle d'ambiance là, au sein de son équipe.
On sent une sorte d'accalmie aujourd'hui dans la campagne en prévision du débat d'hier, mais il y a quand même Dominique Anglade qui, elle, a la pédale au fond.
Oui, Dominique Anglade qui est vraiment à la traîne, là, on s'entend dans les sondages, ça ne va pas bien dans la perception des gens par rapport aux performances du débat la semaine dernière, ça ne va pas bien non plus. Et elle a choisi, alors que les autres ont commencé soit le repos et la préparation pour le dernier débat de Radio-Canada jeudi soir, elle a choisi de quand même mener campagne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a fait une annonce en matière d'aide aux enfants handicapés ce matin avec son candidat Mathieu Graton. Et elle a des entrevues importantes quand même dans la journée qu'elle accorde à différents médias. Donc, les journalistes l'ont questionné là-dessus et elle a dit qu'elle avait l'intention d'avoir le dit en anglais, là, mais la traduction un peu libre, la pédale au fond d'ici la fin de la campagne. Est-ce que c'est judicieux? Ça dépend parce qu'elle a vraiment besoin d'être bonne au débat, au dernier débat, qui est comme une dernière grande occasion de visibilité pour les chefs auprès des gens qui ne suivent pas la campagne de minute en minute comme nous. Donc, je trouve que c'est un
peu... Tout le monde en parle dimanche aussi, hein? Tout le monde en parle dimanche, ça risque d'être très suivi. Ça va être comme un troisième débat, plus informel, plus... En tout cas, ça va être spécial.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Les chefs vont surtout chercher à projeter une image sympathique et de confiance. Mais au débat, ils doivent encore, j'imagine, là, vouloir marquer des points, parler de leurs propositions, essayer de séduire des indécis. Et dans le cas de Dominique Anglade, c'est comme je mentionnais, ils ont dit quand même qu'elle avait des moments de préparation quand même dans la journée. Mais il y a peut-être un danger quand même de la pédale au fond. Des fois, ça, tu sais, tu peux prendre un virage, la pédale au fond, puis risquer de déraper. Alors, je ne veux pas être prophète de malheur, mais tu sais, je dis juste que tu sais, si elle est fatiguée ou c'est peut-être plus dangereux, mais c'est le choix qu'ils ont fait.
Oui, c'est le choix qu'ils ont fait, Rémi, mais juste un dernier mot sur Dominique Anglade. Il me semble qu'elle a déjà pris un peu, je dirais pas le clou, mais... Elle a fait un dérapage hier en suggérant une espèce de vote, en suggérant qu'il fallait se rallier à elle puis bloquer François Legault.
Oui, bien parce que ça donnait l'impression, comme Gabriel Nadeau-Dubois l'a fait remarquer par la suite, qu'elle avait abdiqué pour ses chances de devenir première ministre.
C'est ça.
Là, elle disait, pour avoir une meilleure opposition, une opposition plus forte, votez pour moi. Donc là, c'est sûr qu'effectivement, elle a montré avec un certain réalisme, là, parce qu'on sait qu'elle n'a pas de chance là, de former un gouvernement, là, mais qu'elle devrait être la meilleure pour être la chef de l'opposition officielle. Et on sait que M. Nadeau-Dubois a commencé aussi à marcher sur ce terrain-là en disant qu'elle n'avait pas livré la marchandise comme chef de l'opposition officielle jusqu'ici. Donc, on voit là, que je pense que plus ça va, il y aura quand même aussi cette bataille-là en arrière-plan.
Parlons en terminant du convoi dehors la CAQ. Il y a des risques, là. C'est le fameux convoi qui doit se rendre dans l'Assomption, dans la circonscription du premier ministre, le 1er octobre.
Oui, et vraiment, je suis un peu perplexe. Je me demande si ce sera vraiment populaire, là, dans le sens qu'il y aura une forte participation ou pas. Il y en a qui le comparent un peu comme au convoi de la liberté qui avait paralysé Ottawa. Donc, il y a une page Facebook là, qui parle de cet événement-là, qui met sur pied des gens qui partiraient de différentes régions pour se rendre dans la circonscription de François Legault et manifester. Et il y a quand même un danger. Nous, on a tenté de parler aux organisateurs. Mon collègue de l'agence QMI, Gabriel Côté, et je te dirais, bon, les gens qui l'ont parlé, ils ont dit, on a fait nos recherches sur l'agence QMI, on a préféré ne pas vous donner d'entrevue. Ce qui est,
ben voyons donc.
Oui, ce qui est vraiment étrange. Mais on cherchait en même temps à leur faire comprendre qu'il y a peut-être une possibilité qui déroge à la loi électorale. Et ça ne serait pas leur avantage, parce qu'ils deviendraient passibles d'amende. Mais c'est vraiment un risque, parce qu'on a vérifié au bureau du DGEQ, ils nous disent que si il y a des dépenses qui sont encourues et qui ne sont pas signées par un agent officiel de parti, là, ce qui n'est pas le cas là présentement, pour ou contre un parti, et là c'est vraiment contre un parti, c'est dehors la CAQ, ben à ce moment-là, ça devient comme une dépense électorale illégale. Et au DGEQ, ils ne veulent pas commenter précisément ce cas-là, mais on comprend dans leurs explications que même de l'essence, pour, par exemple, aller en camion quelque part pour une manifestation contre un parti, mais ça deviendrait comme une dépense illégale. Mmh. Alors, je ne sais pas s'ils en sont conscients, je ne sais pas si ça va marcher, cette affaire-là, mais c'est quand même le risque auquel ils s'exposent.
En tout cas, j'ai eu l'entourage d'Éric Duhaime là, en entrevue tantôt, puis ils étaient très mal à l'aise. Ils disaient même qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été donné. Aucun candidat du Parti conservateur doit être présent à cette manifestation. Les autres, ils ont le droit de manifester comme ils veulent, mais on n'est aucunement associé au mouvement. Or, je voyais tout à l'heure un tweet là, de Pascal Bérubé qui prétendait qu'un des organisateurs du Parti conservateur dans son comté, le Matane-Matapa, c'était un des organisateurs de cette partie-là du convoi qui partait pour aller dire à François Legault qu'il doit être mis dehors.
Oui, puis c'est ça, on les a questionnés aussi, les conservateurs, là-dessus. Ils semblent dire que c'est un bénévole dévoué, mais pas un organisateur du parti. Mais tu sais, c'est sûr que la ligne est un peu mince, là. Ils ont dit qu'il n'avait rien à voir avec l'organisation de cette manifestation.